100% sport avec plus de fun, plus d'opinion, plus de débat. Tailgate Weekend. BM
Sport. On peut pas être plus sur le beat du Canadien que lorsqu'on parle avec Pat Friolet. Salut Pat, comment ça va? Probablement que le...
Oui, salut Greg.
Ah voilà!
Tu m'entends?
Oui, ce sont des choses qui arrivent quand on est sur cette magnifique plateforme qui est Zoom, hein, qui fonctionne bien quand t'es pas muté, quand l'Internet est bon, quand ça bug pas, quand, bref, en tout cas.
Exact, le petit micro en bas de l'écran.
Ouais,
tout est beau.
Exactement. C'est, bon, je répète la question, comment ça va mon Pat?
Ça va très bien, toi-même?
Ça va super bien, merci. Belle soirée hier au Centre Bell pour à peu près tout le monde. Oui. Sauf peut-être Justin Barron, mais ça, on en reparlera. Une belle victoire d'équipe pour le Canadien. Puis, selon toi, d'ailleurs, Martin Saint-Louis qui a eu la réponse qu'il voulait de ses joueurs. Il est allé chercher celui-là.
Oui, mais on s'en parlait hier, justement, dans l'après-midi, puis à quel point Martin Saint-Louis voulait simplifier les choses un peu. Ça a été deux matchs en deux soirs pour commencer, Toronto, Boston. Là, on revenait à la maison. On voulait, Martin Saint-Louis, je prends ses mots, là, on voulait éviter les coups de circuit à tout coup, puis y aller une étape à la fois. Donc ça, c'était de simplifier, de passer plus de temps en zone offensive, d'envoyer la rondelle plus profondément chez l'adversaire pour mettre de la pression. C'est ce qu'on a vu vraiment du Canadien, puis c'est des petits détails comme ça qui ont simplifié les choses puis qui ont permis à l'équipe de passer ce temps-là en zone offensive, d'aller chercher des touches positives dans le territoire des Sénateurs. La deuxième période, on a vu que les Sens ont augmenté un peu le volume de tir vers le but du Canadien, mais globalement, là, le Canadien a eu le dessus dans ce match-là. Puis on le disait, là, le Canadien se doit de battre des équipes comme les Sénateurs, comme les Sabres, comme les Red Wings, si on veut prétendre à une course aux séries. Donc, à ce niveau-là, le premier test a été vraiment bien accompli. On a vraiment vu du beau jeu de la part de tout le monde. Puis, de voir aussi un Cole Caulfield qui a déjà 4 buts après 3 matchs, qui a de la confiance dès le départ. On n'arrêtait pas de dire l'an passé que c'était difficile pour lui de toucher la cible. Ben là, marque tout un but hier. J'ai vraiment aimé ce qui dégage tôt dans la saison, c'est très encourageant pour lui.
T'as dit hier sur X que c'était un tir des ligues majeures, là. Oui. Pas grand monde dans la Ligue nationale qui réussit ce tir-là. Et il le savait exactement où le placer parce que Linus Ullmark a tendance à laisser tout le temps cette petite portion-là du filet ouverte. Mm-hmm. Il y a à peu près juste Cole Caulfield qui pouvait la placer là hier, là.
Oui, vraiment. Puis Caulfield, c'est sa marque de commerce. Puis là, de voir qu'il est capable de toucher la cible de cet endroit-là rapidement, ben ça va le permettre de grandir aussi dans tout ça. Moi, je veux pas oublier ce que Juraj Slafkovský a fait quelques secondes avant. La passe transversale. Il y a beaucoup de commentaires négatifs tôt dans la saison à propos de Slafkovský. On disait hier qu'il se mettait de la pression pour livrer la marchandise, pour être plus solide.
Même après sa passe, Pat. Même après cette passe-là, il est encore critiqué, Slafkovský.
Ben oui, puis moi, je trouve que oui, c'est vrai qu'on aimerait le voir patiner un peu plus vite, être plus engagé avec la rondelle, mais il y a quand même 2 passes dans le match d'hier, puis on voit un Slafkovský qui veut trouver ses coéquipiers. J'ai en tête une séquence où il arrive en zone offensive, il y a une occasion de décocher un tir, il y a un défenseur entre les deux, il essaie de faire une passe à Caulfield. C'est peut-être là où il y a peut-être un petit peu trop la volonté de donner la rondelle à ses coéquipiers présentement. Il pourrait laisser aller son tir parce qu'il y a tout un tir. Mais en ce moment, je trouve pas qu'il y a énormément qu'il y a tant de négatifs dans le jeu de Juraj Slafkovský. Là, il y a un début de saison un peu à l'image du premier trio, mais hier, le premier trio a quand même bien fait. Puis il y a eu quelques beaux flashs offensivement. On met beaucoup de pression sur la première vague en avantage numérique. Sauf que collectivement, je trouve que le Canadien a joué un bon match. Il n'y aura jamais rien de parfait, mais Juraj Slafkovský s'est impliqué beaucoup plus dans le match d'hier, ça c'est clair.
Oui, et tu sais, tu dis, Juraj Slafkovský semble chercher l'option de passe, semble essayer de trouver ses coéquipiers. Ça a fonctionné dans le cas de Caulfield hier, là, qui l'a alimenté sur son premier but. Mais oui. Je vais faire un parallèle avec Lane Hudson. Lane Hudson amène une confiance exceptionnelle depuis le début de la saison, en fait, depuis son arrivée dans la Ligue nationale. S'il y a une portion de son jeu qui peut-être manque de confiance et qui est encore... et là, je ne le mets pas parfait. Ce que je veux dire, c'est qu'il est en contrôle de la rondelle, cherche ses coéquipiers. Il ne semble pas avoir la confiance nécessaire de décocher le tir, de l'envoyer au filet. Et ça, selon moi, c'est une dimension qui va encore plus amener à son jeu. Lane Hudson, es-tu d'accord avec moi?
Peut-être. À partir du moment où il va être capable de trouver des lignes de tir, c'est pas quelqu'un qui va avoir un tir foudroyant ou qui va décocher des plombs de la ligne bleue.
Non.
Mais tu sais, moi, ce que je remarque de Lane Hutson, c'est à quel point son intelligence, tu sais, parce que on n'arrêtait pas de dire, bon, Lane Hutson, est-ce que quand ça va monter d'un cran, il va être capable de faire ce qu'il fait au niveau universitaire? Là, oups, on a l'impression que oui, après deux matchs l'an passé, en fin de saison contre les Red Wings, il y avait quelques beaux flashs. Est-ce qu'il va être capable de le faire sur une base constante? Mais là, maintenant, il y en a 5 matchs joués dans la Ligue nationale. Puis pour le moment, il n'y a rien qui démontre que Lane Hutson n'est pas confortable à ce niveau-là. Au contraire, il est au-dessus du lot. Je vous écoutais un peu plus tôt quand vous parliez des statistiques de possession en zone offensive. Là, j'ai l'impression que Lane Hutson va briser la machine de stats avancées tellement au niveau de la possession de rondelles en zone offensive. C'est incroyable ce qu'il est capable de faire.
Tout, Pat. Il change tout.
Les entrées de zone avec la rondelle... Là, en possession de la rondelle, ça, c'est une statistique qui est calculée aussi. À ce niveau-là, Lane Hutson, c'est incroyable parce que regardez le nombre de fois où le Canadien, des fois, a de la misère à rentrer en zone offensive en avantage numérique. Lane Hutson, il se casse pas la tête, là. Arrive en zone neutre, fait une petite feinte, rentre en zone offensive, garde la rondelle, puis, tu sais, là, je vais nommer des noms, mais je veux pas qu'on rentre dans cette conversation-là nécessairement, mais tu sais, je veux juste comparer pour l'idée. Quand on regarde des gars comme Alex Ovechkin, OK, Alex Ovechkin, tout le monde dans le building sait qu'il va faire un tir sur réception du cercle de mise au jeu. On le sait. Ouais. Nous, on le sait. Les gars sur la glace le savent. Il y a toujours un gars qui est là. Mais Ovechkin réussit à le faire. Pourquoi? Parce qu'on trouve le moment, on trouve l'intelligence de se placer au bon endroit, au bon timing, et réussit à le faire. Donc, on attire l'attention d'un côté, whoops, de l'autre côté. Puis Lane Hutson a ce côté-là un peu trompeur dans son jeu où on le sait là qu'il va avoir la rondelle. On sait qu'il va prendre peut-être une chance à la ligne bleue, va déjouer. Mais le joueur qui est en avant est complètement... Il n'y a pas d'option parce que s'il fonce sur Lane Hutson, ben Hutson va l'éviter. S'il décide d'y présenter son bâton, Hutson va aller de l'autre côté. S'il décide d'être statique puis de le laisser aller, ben il est mort. Donc, à ce niveau-là, ça devient très difficile de gérer un gars comme Lane Hutson défensivement. Puis Hutson, ben en profite pleinement. Puis est capable de s'avancer profondément, d'attirer l'attention, whoop, de laisser la rondelle. Honnêtement, là, c'est franchement impressionnant pour un jeune homme de 20 ans qui a seulement 5 matchs de jouer jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale, d'être aussi confortable. Puis c'est l'intelligence du jeu qui le démarque parce que on a l'impression qu'il va se faire frapper, mais non, parce que il a senti la pression venir vers lui puis il évite le contact.
On peut peut-être essayer de poser la question à Brady Tkachuk, voir ce qu'il en pense ce matin, qu'il l'a nargué devant le filet. Après ça, il a essayé de le connecter, ça n'a pas marché. Il a réussi à le prendre, mais pas tant que ça. Lane Hutson, je pense que c'est par deux fois là, qu'il a créé une séparation incroyable, qu'il a mystifié Brady Tkachuk. Alors, j'ai hâte de continuer. Comme je l'ai dit tantôt, on est dans l'ère Lane Hutson. Là, on a juste à s'asseoir, le regarder jouer, le regarder progresser et en profiter.
Pleinement. Puis il faut pas oublier qu'il a été pris en deuxième ronde, Lane Hutson. Tu sais, je me souviens d'avoir... c'était le repêchage à Montréal. Si je vous dis que le Canadien, avant de prendre Lane Hutson, a pris Juraj Slafkovský, Philippe Méchard, Owen Beck. Et ensuite, Lane Hutson. Vous allez dire, ben voyons donc, comment ça se fait que 62e au total, Lane Hutson était encore disponible. Rappelez-vous, là, Lane Hutson parlait aux équipes, puis disait, j'ai pas terminé ma croissance, là, il y avait des papiers pour le prouver, il y avait tout le monde qui doutait de lui. Tu sais, puis de voir cette intelligence-là, puis qui est capable de le faire à ce niveau-là, ben chapeau à lui, parce que il démontre encore une fois qu'on doute de certains éléments dans le jeu d'un... Mais là, c'est clair, là, il y a seulement 5 matchs de jouer. Il ne faut pas penser que tout de suite, il gagne le Norris puis tout de suite, il gagne le Calder. Sauf que ce qu'il est en train de démontrer présentement, c'est franchement impressionnant d'avoir ce calme-là et le niveau d'intelligence pour être capable de faire des jeux sous pression. Moi, j'ai l'impression que c'est pratiquement une patinoire extérieure. Des fois, là, il est au-dessus du lot, s'amuse.
Il va réussir
à trouver le jeu.
Je te pose la question, justement. Là.
Oui.
Dis-moi donc, toi qui es au Centre Bell depuis belle lurette, t'es sur le beat du Canadien. Hier, au Centre Bell, aussitôt que Lane Hutson prend la rondelle, on entendait des murmures, des O, des A. Même, j'ai vu quelques sourires sur la galerie de presse. Je sais bien qu'il y a no cheering sur la galerie de presse, mais je pense qu'il fait sourire tout le monde, ce joueur-là. Te rappelles-tu d'avoir vu un joueur comme ça, toi, qui fait l'unanimité à son entrée dans la Ligue nationale?
Dès le départ, c'est difficile. Là. Évidemment, tout le monde parle de Piqué Subban, qui était électrisant à ses heures, mais c'était un joueur qui était différent, évidemment. Lane Hutson, qui arrive, qui a tellement, tu sais, qui a un jeu, une mentalité 2024, qui est capable de faire des jeux dans un espace restreint, se distinguer. Le petit côté buzz dans la foule, tu sais, on l'a entendu lors des matchs préparatoires, Patrick Laine qui se démarque, puis même Martin Saint-Louis qui fait une allusion à Guy Lafleur en disant, tu sais, quand Guy Lafleur prenait la rondelle, on entendait des murmures parce qu'on savait qu'il y allait quelque chose qui allait se passer. On exact. A vu ça avec Patrick Laine. On voyait ça avec Piqué Souban. On voyait ça avec Alex Kovalev. Alex Kovalev, ça, c'est un autre exemple. Rappelez-vous du jeu qu'Alex Kovalev faisait toujours. Il y avait le derrière à côté, un peu sur la bande en avantage numérique, remontait vers la ligne bleue.
Ouais.
Là, tout à coup, revenait, puis décochait un tir ou faisait une passe. Puis tout le monde savait que Kovalev allait faire ça. C'est un autre exemple. Puis finalement, il réussissait à le faire tout le temps. Pourquoi? Parce que sa lecture du jeu, il anticipait ce que l'autre joueur allait faire. Il regardait le positionnement du bâton de son adversaire. Si le joueur venait sur lui puis qu'il n'y avait pas de jeu, il glissait la rondelle à un coéquipier. Donc, ce genre de jeu-là, ce genre de lecture-là, le buzz qu'il y a dans la foule, ben Lane Hutson a déjà ça après seulement 5 matchs dans la LNH. Parce que les gens dans la foule sont capables de reconnaître le talent puis le côté un peu étoile de ce jeune homme-là.
Puis le seul problème de Kovalev, c'est que c'était un match sur 3, un match sur 4. Et j'aimais beaucoup Kovalev. Ouais. Maintenant, Pat, on a assez parlé de Lane Hutson. Je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Mais il y a deux gars qui, un peu plus dans l'ombre, connaissent des, je vais utiliser une expression bien de mon cru, excellent bon début de saison. On parlera du gardien de but, Samuel Montembeau. On se garde ça pour le dessert dans une minute, mais on parle pas assez de Caden Goulet qui fait le travail, puis pas à peu près. Quel général?
Ben, tu le dis, c'est ça. C'est un général, Caden Goulet, puis c'est pas nécessairement le plus flamboyant offensivement, mais hier, je le regardais aller relancer le jeu, décocher des passes. Tu sais, Caden Goulet est sous-estimé dans ce qu'il peut apporter offensivement, mais c'est parce qu'il nous en apporte tellement défensivement. Hier, 8 tirs bloqués dans le match. Le joueur le plus utilisé en désavantage numérique. Après 3 matchs, là, rappelez-vous, là, il y a une semaine à pareille date, là, on s'apprêtait à, en fait, samedi dernier, on s'apprêtait à affronter les Sénateurs pour le dernier match préparatoire, puis on se demandait si Caden Goulet allait avoir assez de juste un match préparatoire pour commencer la saison en confiance. Là, finalement, a commencé la saison contre Toronto, Boston et Sénateurs en 3 fois en 4 soirs. Puis, est-ce qu'on s'inquiète de Caden Goulet? Je pense pas. Mais parce non, que tellement. Caden Goulet, là, même Martin Saint-Louis a dit hier à un journaliste, je suis content que tu me parles de lui. Ben, justement, parce que c'est un joueur qui en apporte tellement sur une patinoire, puis qui est tellement un bon patineur, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite, qui peut faire le travail en désavantage numérique. Bref, c'est un leader incontesté dans ce vestiaire-là, ça, c'est clair.
Et t'as pu parler avec Samuel Montembeau hier aussi. C'est tout naturel, toi qui es près de l'équipe. Mais, tu sais, on peut se demander, est-ce que ce début de saison-là est peut-être un feu de paille? Est-ce que, je veux dire, Samuel Montembeau a juste une bonne séquence ou quoi que ce soit? Mais toi, tu sais et tu vois qu'il a vraiment changé sa préparation physique cet été et que c'est peut-être juste un signe d'une bonne saison qui est bien partie pour Sam.
Oui, ben on sait que c'est pas un secret, là. On sait que Samuel a travaillé au niveau neurologique cet été, a fait des exercices, a travaillé étroitement avec un spécialiste pour améliorer un peu son confort dans l'environnement, un peu, de se sentir quand il est déséquilibré. Il m'expliquait hier, j'avais les deux pieds sur un tapis, puis je me faisais pousser, puis à ce moment-là, il fallait que je garde mes repères, que je sois capable de retracer un peu l'espace autour de moi. Donc, à ce niveau-là, Montembeau est de plus en plus confortable dans son inconfort, j'ai envie de dire, ce qui fait en sorte que dans les matchs, ben il est capable de trouver la rondelle plus rapidement, il est capable d'être mieux positionné devant la rondelle. Puis quand je regardais Montembeau dès le premier match, son fameux look, on l'a vu immobile devant son filet avec les yeux, le regard de feu, je me disais waouh, OK, on a quelque chose de différent dans Samuel qui était vraiment très concentré. Puis c'est fou de voir à quel point Samuel d'un côté est cette bête là sur la patinoire, puis de l'autre est un jeune homme tellement sympathique, tellement souriant, tellement volubile après les matchs, décontracté. C'est vraiment une personne spéciale. Puis de voir sa progression, de voir les efforts qu'il a fait, puis de voir que déjà, il est dans la discussion comme un candidat potentiel pour la Coupe des Quatre Nations, seulement après 2 matchs, c'est pas seulement à cause des résultats, c'est à cause de sa prestance. C'est à cause de ce qu'il est capable de faire dans les matchs. Il nous démontre que c'est pas un feu de paille et qu'il va être capable d'être vraiment constant cette année. Est-ce qu'il va y avoir des hauts et des bas? C'est clair. Mais présentement, ce que Samuel Montembeau nous démontre, c'est que sa préparation estivale était vraiment exemplaire.
Pat, il y a Claude sur la messagerie texte qui dit « C'est du bonbon avec Pat Friolet » et je suis tellement d'accord avec ça. C'est un premier week-end fructueux de notre collaboration. Là, Richard Labbé n'était pas avec nous aujourd'hui, alors c'est toi qui s'est amené. Mais il y a quelque chose qui ne change pas entre vous deux, c'est que vous êtes deux fans des Cowboys de Dallas. Ça, écoute, ça te prenait un défaut, mon Pat.
Ouais, je suis désolé, je sais que tu m'appréciais, là, mais je suis désolé. Je m'excuse à Claude qui, là, finalement, regrette peut-être son commentaire. Mais c'est la faute à Terrell Owens. C'est que Terrell Owens était mon joueur préféré et dans l'histoire, il n'y a personne qui a à côté pour moi Terrell Owens dans son côté joueur étoile, son côté que tout le monde le détestait un peu, mais moi, j'appréciais son côté spectacle. Son talent était incroyable.
Ben oui.
Il a commencé avec les 49ers, je le suivais. Il y a eu les Eagles après contre les méchants Patriots. Quand il est arrivé avec les Cowboys, j'avais l'impression que c'était le fit parfait. Puis tout le monde parlait contre Tony Romo. Ben moi, j'appréciais quand même Tony Romo, même si... Écoutez, être un fan des Cowboys, là, c'est extrêmement frustrant. On peut jamais être confiant parce qu'on le sait qu'on va être déçu à un moment donné. On sait juste pas quand. Donc, j'ai juste décidé de continuer à soutenir les Cowboys, même si par la suite, quand ils se retrouvaient avec les Bills, je le suivais. Puis, j'aime beaucoup les Bills. J'aime beaucoup Josh Allen aussi, qui est un joueur que j'adore suivre. Mais les Cowboys, c'est toujours l'équipe qui me ramène un peu, que je regarde d'un œil distant en me disant, bon, OK, ça va bien, là, mais il va arriver quelque chose de pas correct. Puis finalement, on est toujours déçus. Donc, malheureusement, je demeure attaché un peu à cette équipe-là. Je veux que ça fonctionne pour eux.
Fais-toi pas
jamais
trop
vraiment confiant jusqu'à la fin de la saison.
Fais-toi pas trop d'attente pour aujourd'hui, c'est mais ça. Je te souhaite quand c'est même ça. La meilleure des chances. T'es le troisième fan des Cowboys dans la famille BPM après Richard Labbé et après Pierre Lebrun également.
Oui.
Donc,
oui.
C'est quand même un club
Pierre,
très
tout comme moi, Pierre est habitué d'être déçu. C'est mais ça. On continue quand même d'avoir l'étoile qui brille sur notre poitrine, sur un chandail ou sur une casquette.
Pat, merci. Merci énormément, mon chum, d'avoir accepté ce défi-là d'être avec nous autres, puis j'ai déjà hâte de te reparler samedi prochain.
Ça fait vraiment plaisir, merci à vous, puis on se reparle samedi sans faute.
Bon dimanche.
Go Cowboys.
Yes sir, salut. Il dit Go Cowboys. David Gilbert s'en vient tantôt, il y a peut-être des petites nouvelles sur Go Cowboys, lui qui est un fan des Lions. Est-ce que, je te pose la question Ali, est-ce que Drake May sera finalement le corps partant d'avenir des Patriots? On va commencer à avoir une réponse aujourd'hui, mais surtout au retour de la pause avec Nicolas Richard.